Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Du bon le matin. As-tu deux minutes?
D'abord, le propriétaire du restaurant-magasin Bière et Frites qui poursuit la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour la somme de plus de 3 millions de dollars. C'est que depuis 2021, la Régie enquête sur son restaurant qui a un modèle d'affaires assez particulier là, dans lequel tu peux acheter une certaine quantité de bouffe, mais également beaucoup d'alcool à prix un peu plus bas. Et le concept, le propriétaire qui s'appelle Jérôme Landry, c'est pas notre Jérôme à nous, là, mais il dit l'avoir validé et revalidé plusieurs fois auprès de la Régie, mais il a reçu un avis de convocation pour une audience en avril dernier. Parce que, selon eux, ils vendaient trop d'alcool par rapport à la quantité de nourriture, puis ils incitaient à la consommation non responsable. La Régie a retiré son avis de convocation à la suite d'une mise en demeure envoyée par le propriétaire. Ils ont dit que c'était une erreur administrative. Mais le propriétaire de Bière et Frites, Jérôme Landry, ce qu'il dit, c'est que selon ses informations, il y a un cadre responsable des inspections à la Régie qui a fabriqué une fausse plainte dans son dossier, qu'il est toujours à l'emploi de la Régie également et que cette démarche-là de la Régie l'a empêché d'y aller de façon aussi large qu'il l'aurait voulu dans ses plans d'expansion pour sa franchise. Plusieurs gens qui avaient levé la main au départ qui ont dit finalement on n'est pas certain de vouloir embarquer dans l'aventure. Donc voilà pourquoi on y va avec une poursuite de 3 millions de dollars à l'endroit de la Régie des alcools.
La poursuite, c'est une chose. Moi, j'étais au courant de cette histoire-là, mais il faut bien comprendre. Il y a un employé de la Régie des alcools, des jeux et des courses qui a fabriqué une fausse plainte pour se donner un levier pour pouvoir causer des problèmes à cette entreprise-là.
La Régie dit qui non, dit, le propriétaire de l'entreprise dit oui.
Ils ont des preuves entre les mains. Là. C'est ce qu'il dit, mais ils le disent avec des preuves entre les mains, avec l'identité de la personne en question. De ce que moi, j'en comprends de l'extérieur, en tout cas. Et c'est pour ça que dans la nouvelle, on rappelle que l'employé visé par la fausse plainte, le créateur de la fausse plainte, est toujours à l'emploi de la société d'État. Alors, c'est ça qui va être intéressant à suivre, à savoir comment on a protégé un employé comme ça à l'intérieur, alors qu'eux, à l'intérieur, là, ils pourraient facilement le mettre dehors ou s'ils ont les preuves de ce qu'il a avancé.
Eux, à la Régie, ils ont envoyé une lettre même à M. Landry pour lui dire qu'il n'y avait pas eu de tentative de falsification de la plainte.
On verra.
Maintenant, du côté de Beauport, on souligne, puis je dis « on », s'il y a des gens qui ont levé la main en fin de semaine à ce sujet-là, sur l'avenue Royale à Beauport, en 2023, il y a plus de 3000 infractions qui ont été données au code de la sécurité routière, principalement pour la vitesse. Oui. La vitesse, c'est 40 de ce côté-là. Mais ce que les gens qui ont été interviewés par Radio-Can ont rapporté, puis c'est des gens qui habitent le secteur ou qui circulent beaucoup dans le secteur, c'est que ça roule énormément plus vite dans cette partie-là. D'ailleurs, la Ville de Québec qui va se pencher sur ce secteur-là en particulier, là, ils se disent au courant des enjeux de sécurité, qui ont déjà amorcé des réflexions pour réaménager certains tronçons, notamment entre le boulevard François-de-Laval et le boulevard des Chutes. Grève dans les bibliothèques, il y a eu une offre qui a été soumise, ça a été refusé par les travailleurs. Et là, ce que ça amène également, c'est une réduction des heures d'ouverture parce qu'il y a quand même 3 bibliothèques qui restaient ouvertes de façon un peu plus... qui restaient ouvertes. Gabriel Roy, Monique Corriveau et Étienne Parent. On était ouverts les mardis et mercredis jusqu'à maintenant. Ça ne sera plus le cas à partir de maintenant. Donc, ce sera les jeudis au samedi, 13 à 18 heures en semaine, midi à 17 heures le samedi. Donc, on est à service très, très réduit. L'offre a été rejetée à 52% vendredi. Je vous rappelle évidemment le décès de Jean-Pierre Ferland également ce week-end. Il avait 89 ans.
Série de la Ligue nationale de hockey. Une équipe est en congé déjà. Les Capitals de Washington éliminés en 4 matchs par les Rangers de New York. Hier, 3 équipes ont pris les devants 3-1 dans leurs séries respectives. C'est le cas de Canucks de Vancouver avec une victoire en prolongation 4-3 à Nashville. C'est le cas de l'Avalanche du Colorado qui l'emporte facilement 5-1 contre Winnipeg. Tour du chapeau de Valérie Nichushkin. Et c'est le cas aussi des Oilers d'Edmonton qui ont gagné 1-0 contre les Kings à Los Angeles. Premier jeu blanc des séries Série Stanley 2024. Il appartient à Stuart Skinner. Ce soir, deux matchs. Tampa Bay est en Floride. Les Panthers en avant 3-1 et Dallas à Vegas. Les Golden Knights de Vegas, champions en titre, mènent cette série. Deux matchs à 1. Au hockey junior, ce soir, match numéro 3 de la série Bécomo-Cap-Breton avec le Drakkar en avant 2-0 sur les Eagles. Le match a lieu à Sydney au Cap-Breton. Parlant du Cap-Breton, ben c'est là hier que les Cantonniers de Magog ont remporté le championnat canadien du hockey midget 3A, M18 si vous préférez. 4-1 en finale contre Brandon. Les Cantonniers ont gagné leurs 7 matchs cette semaine et succèdent ainsi au Blizzard du Séminaire Saint-François en tant que champion canadien. Il y a un peu de baseball, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Les Jays ont battu les Dodgers hier 3-1. Ça met un terme à la séquence victorieuse des Dodgers à 6 matchs. Également à souligner, aucun coup sûr en 3 présences pour Édouard Julien dans la victoire du Minnesota 11-5 contre Anaheim. Et Abraham Toro a frappé un autre coup sûr. Les Ace d'Oakland ont vaincu les Orioles de Baltimore 7-6. Et puis hier également, c'est amorcé le 25e camp d'entraînement des Capitales de Québec. Ça débute au parc Henri Cazot. La saison va débuter sur la route à Florence le 9 mai et à domicile le 21 mai contre Sussex au superbe stade Canac.
C'est quand qu'on y va pratiquer, nous autres?
On n'a pas été invité, Steph, je crois bien, cette année. L'alignement semble complet. Il y a 7 Québécois et j'ai pas vu nos noms sur la liste.
T'as pas vu nos noms?
Non. Toi, t'es Américain ou Québécois?
Moi, je...
J'ai surveillé surtout les Québécois.
Ouais, c'est ça.
Je voyais pas Dupont.
Ben, t'as pas le numéro 13?
13.
Ils m'ont demandé de me choisir un numéro.
T'as pris 13?
Ouais. Fait que, toi, quel t'as pris?
J'ai pas pris de numéro, ils me l'ont pas demandé.
Peut-être qu'on ne sera pas de l'alignement partant au début, mais...
C'est ça, ils changent de joueur dans l'été, eux autres.
Ben oui, quand ils vont voir que ça va mal, ils vont dire, ouais, on aurait dû les appeler les vétérans.
Tu vas être de l'alignement partant.
Hey, mais blague à part, là, s'il y a une année où il y a très peu de chances que vous ayez un coup de fil, les amis, c'est bien cette année, parce qu'il n'y a vraiment pas de place.
Parce que les autres années, il y avait des chances.
Plus.
OK. 7 degrés actuellement sur Québec. Belle journée aujourd'hui, soleil et nuages, mais beaucoup de soleil. On va monter à 13 degrés après-midi. Réveil demain matin, 4 degrés. 7, 8 degrés en journée. Ce sera beaucoup plus frais. Beaucoup de vent demain. Vent provenant du nord-est. Mais ça va se déplacer. Et mercredi, on revient aux valeurs saisonnières avec 4 degrés au lever également mercredi matin et une journée autour de 15 degrés. Donc, ce sera beaucoup plus agréable.
As-tu deux minutes?
Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du pied de Québec. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Ben, c'est ça.
Alors, bien content que Ray soit de retour de la Floride et de retour avec notre équipe. J'ai d'ailleurs rencontré une de mes amies qui était partie également en voyage et qui est revenue dans la nuit. Là, je me souviens pas de quelle journée, de la semaine passée. Quelle journée on a fait jouer la toune des Cowboys fringants? Au complet.
Jeudi matin.
C'est la fin du show.
Hein?
La fin du show.
Ouais, la fin du show. C'est ça. J'ai entendu cette toune-là, puis j'ai trouvé ça très bien fait. Puis je voulais moi aussi rendre hommage. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un point de presse aujourd'hui de Bernard Drinville, ministre de l'Éducation. Puis je sais pas s'il va nous chanter une toune de Jean-Pierre Ferland.
Ça serait mieux pas, là.
Non, mais il avait fait...
Il est capable.
Il a fait ça pour les Cowboys fringants. Pourquoi il le ferait pas pour Jean-Pierre Ferland?
Parce que ça n'a pas été un succès.
Ça
n'a
pas été un hit, non.
Non, ça n'a pas été un hit.
Ah, mais je pense qu'il s'enfarge... Ouais, mais il s'enfarge pas là-dedans. Ça se peut qu'il chante, là.
Ça serait tout à fait dans la logique des conférences de presse qu'il fait, là. Une chance que je t'ai...
Mais il a raconté hier, Bernard Drinville, que Jean-Pierre Ferland a chanté à son mariage.
Ouais.
À Bernard.
Il est allé chanter une chance contre ça, je pense.
Pour vrai?
Ouais.
Oui. OK, parce que...
Fait qu'il fait les Hells, puis il fait Drinville, c'est ouais. ça?
Non, mais c'est que le nombre de personnes qui se sont mariées, que Jean-Pierre Ferland a chanté à leur mariage, c'est innombrable.
Mais
en enregistrement, vous comprenez ce que je veux dire?
En enregistrement, OK, c'est ça. Oui, ça c'est sûr. Mais sur place, il se déplaçait, M. Ferland.
Il faisait?
Très généreux, je pense,
OK, je sais pas.
Il a raconté, parce que tout le monde en parle, on a passé des extraits des passages de Jean-Pierre Ferland, puis il a raconté une histoire où une dame, sa mère était en CHSLD, puis Jean-Pierre Ferland, c'était son idole, puis il avait accepté d'aller visiter la dame en question. Okay. Je pense qu'il était généreux, M. Ferland.
Est-ce qu'il y avait des enfants?
Oui.
Il y avait des enfants, OK.
Oui.
J'avais pas... tu sais, parce que oui. Moi, sa vie était quand même assez secrète. Il y avait une conjointe, j'imagine, puis...
Une quarantaine d'années, je
pense. Ah ouais, OK.
C'est une nouvelle conjointe qu'il avait eue dans les dernières années.
Mais il a été 40 ans avec une femme.
Oui, ça oui.
OK.
Puis peut-être qu'elle est décédée.
Avec une certaine Julianne.
OK.
Plus récemment, mais tu sais, dans les dernières années.
Tu vois, ça, c'est un autre avantage d'avoir adopté le modèle en direct pour tout le monde en parle. Quand il y a des événements comme ça, ils peuvent
ça, s'ajuster. Ils s'adaptent. C'est ça, ils vont s'ajuster puis tout.
Hier, 5 albums de Jean-Pierre Fernand dans le top 10 de iTunes au Canada.
OK. Donc les gens sont
le premier album, c'était quoi? C'était jaune. Pas Jean-Pierre Fernand.
C'était jaune?
Non, le numéro 1, c'était
les Cowboys.
C'était Pub Royal des Cowboys fringants.
OK.
Fait qu'il y a 7 albums québécois dans le top 10 iTunes canadien hier.
OK. Mais d'ailleurs, moi, j'ai écouté quand même beaucoup la toune dont on a fait jouer dimanche, qu'on a fait jouer jeudi matin, pardon. Mais ce que je veux raconter autour de ça, c'est que je croise un de mes chums vendredi, qui revient de la Floride, lui tout, il était parti à l'extérieur, puis il est revenu dans la nuit de mercredi à jeudi, puis jeudi matin, il s'en allait au bureau. Fait que il se lève le matin, tu sais, des fois ça va vite, il embarque dans son char, fait que, puis là, il part, puis là, c'est la toune des Cowboys. Elle dure 7 minutes. Mm-hmm. Puis après la toune des Cowboys, ça a été le bloc publicitaire. Lui, il est sûr qu'on est dehors. Là. Il est sûr qu'on est, on s'est fait mettre dehors. Là. j'ai jamais joué. Ça fait comme quoi là, que je fais le matin. Puis jouer des tounes au complet, j'avais à peu près jamais fait ça. Fait que là, lui, il est dans son char. Puis il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'sais, là, après 3 minutes de la toune, il dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il va voir aux autres postes. Il dit, il va, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, puis je l'ai manqué pendant que j'étais à l'extérieur. Lui, il est convaincu que je me suis fait mettre dehors, là. T'sais, de la musique, les annonces directes après.
Il est surtout aux conclusions un peu vite. Est-ce qu'il s'attend à ça ou quoi que ce soit?
Je le sais pas.
Ben, c'est déjà arrivé de même. Non?
Il dit, j'en pensais à l'énergie. Il dit, je suis même allé voir si t'étais pas retourné à l'énergie. Il m'a dit ça pour vrai. J'ai ri. Puis je l'avais pas vu sous cet angle-là. T'sais, c'est vrai que des gens qui arrivent dans le milieu de quelque chose, des fois, ils peuvent pas comprendre c'est qui, c'est quoi les circonstances de tout ça.
Même les gens qui commencent au début de l'émission, Stéphane, des fois, comprennent pas ce qui se passe. Pas besoin d'arriver sur le fly.
Même là. Des fois, les gens dans l'émission,
dans l'émission comprennent pas non plus, ouais.
En tout cas, c'était bien ben drôle. Ouais. Fait que, mais ça m'a quand même allumé des lumières en disant, c'est vrai que j'aurais pu refaire une petite intervention avant d'aller au bloc publicitaire. OK, autre ça, Nico, tu me parles de quoi ce matin?
Je te parle de la femme qui archivait la télévision.
OK, qu'est-ce que c'est ça?
Elle s'appelle Marion Stokes. Elle s'appelait parce qu'elle est décédée maintenant. Marion Stokes, qui était une Américaine de Philadelphie, une femme de race noire, libraire pendant des années, dans les années 50 et début des années 60, une intellectuelle brillante, activiste communiste pour les droits sociaux dans les années 50 surtout, parce que le communisme était en montée aux États-Unis, souvenez-vous, jusqu'à à peu près JFK là, dans ce coin-là. Puis après ça, c'est retombé. Et ça, c'est pendant les premières années. Puis elle est devenue une activiste de l'ombre, en secret, lorsqu'elle est devenue riche. Elle est devenue riche de deux façons. Elle a marié un monsieur blanc très riche après son premier mariage qui avait échoué.
Ça, c'est une façon.
Sa deuxième façon, c'est
travailler, non?
Elle avait... Oui, aussi, elle a toujours travaillé. Mais elle a aussi investi dans Apple.
OK.
Dans les premières années. En 1979, Stéphane, pendant la crise des otages iraniens, en Iran, on avait pris les employés de l'ambassade américaine en otage. Mm-hmm. Ça a commencé en novembre, ça a duré très longtemps. Si vous avez vu le film Argo avec Ben Affleck, on raconte un peu comment ils ont sorti de là, en faisant un faux film avec l'ambassade canadienne et tout ça. Mais c'est quelque chose qui a duré plusieurs mois, cette histoire-là. Et c'était... Pour bien des Américains, c'était un peu comme un téléroman parce que ça évoluait, puis on suivait les nouveautés de la semaine et tout ça là-dedans. Et surtout, Mme Stokes a remarqué que au début d'un premier reportage, on parlait de certains employés de l'ambassade qui étaient peut-être des agents de la CIA. Puis après ça, on n'a plus jamais parlé que c'était dans des employés de la CIA peut-être. Puis là, c'est dit... Ils ont décidé de contrôler le narratif. Faut absolument que quelqu'un conserve les premiers reportages pour qu'on ait accès à la vérité quand les médias vont décider de changer le narratif. Fait qu'elle s'est mise à enregistrer 24 heures sur 24, la télé.
Avec donc, à partir de là, il y avait, avant ça, il y avait zéro matériel de conserver.
Non, puis la plupart, même après, la plupart des stations télé jetaient les ou effaçaient les bandes pour les réutiliser pour enregistrer d'autres choses. Puis 1979, ça tombe...
Mais à la radio, c'était comme ça. C'est moi, quand j'ai commencé à Sainte-Marie à faire de la radio,
ouais.
La première affaire qu'on faisait le matin, c'était de tourner la bobine, de mettre la bobine de la bonne journée, comme aujourd'hui, on est le 29 avril. Fait que tu prenais la bobine de ruban du 29, puis ce qui ça a un nom, comment ça s'appelle, ce qu'on enregistrait avec ça, là, ça enregistrait la station 24 heures sur 24. Ça avait un nom, cet appareil-là.
Le logger tape.
Le logger tape. Fait que là, on prenait la bobine du 29, on la mettait dans l'appareil.
Dans la machine.
Puis elle enregistrait toute la journée. Puis ensuite...
Ça effaçait une autre journée, donc.
Ça effaçait la journée du 29 précédent.
OK.
Tu comprends? Donc, ça durait à peu près un mois, sauf les 31 et autres dates particulières. Mais donc, c'était chaque jour changé comme ça. Et donc, il n'y a pas d'archives de conserver de ça. Il n'y avait rien comme aujourd'hui.
C'est ça. Même ici, on commence à moins conserver d'archives parce que l'espace disque, ça coûte de quoi, puis tout ça. C'est une catastrophe. On va perdre bien des affaires historiques, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait qu'elle s'est dit, justement, faut pas que ça arrive, ça. Faut pas qu'on perde la vérité des bulletins de nouvelles, mais elle s'est mise à enregistrer la programmation, point, au complet. Que ce soit des sitcoms ou les émissions de... Toutes. OK? La cassette durait 8 heures, ben elle enregistrait pendant 8 heures, puis elle changeait la cassette après ça. Éventuellement, grâce entre autres à ses placements chez Apple, elle s'est achetée, on parle du début des années 80, là, elle s'est achetée 8 téléviseurs et magnétoscopes, puis plus tard, elle a eu jusqu'à 9 appartements pour stocker les cassettes de tout ce qu'elle enregistrait, parce que, je sais pas si tu sais, mais ça monte vite, là.
Ben, c'est ça, puis ça prend de la place et du volume, là.
Fait qu'elle enregistrait toutes les stations, 24 heures sur 24. Elle avait du personnel, parce que quand elle est devenue riche avec quand elle s'est mariée avec M. Stokes, justement, si elle, elle pouvait pas se rendre à tous les magnétoscopes, elle demandait à ses employés de changer les cassettes. C'était donc, par la définition, c'était ce qu'on appelle une hoarder, ceux qui conservent tout, mais propre, si tu veux. Tu sais, c'était pas des déchets.
C'était pas désordonné.
Pour te donner une idée comment elle était à la fois intellectuelle et hoarder, elle lisait quotidiennement 11 journaux papier, puis elle les gardait tous.
OK.
Fait qu'elle achetait rien de ce qui était nouvelle, de ce qui pouvait servir comme trace de l'histoire. En bout de ligne, parce qu'elle a fait ça pendant 30 ans, 33 ans, elle a accumulé 71 000 cassettes.
OK.
71 000 cassettes de 8 heures chaque.
Ça doit être épouvantable. Mais ça a-tu une valeur?
Elle s'est dit, un jour, ils vont avoir le moyen de cataloguer, puis etc., etc. Puis, sais-tu quoi, quand est arrivée la technologie, les TiVo et les enregistreurs personnels, elle voulait rien savoir parce qu'elle dit ils vont savoir qu'est-ce que je regarde puis qu'est-ce que j'enregistre. Alors que sur vidéo, personne ne le sait. Fait que c'était quelqu'un semi-ermite, semi-secrète, pas tout à fait équilibrée, mais elle s'était, parce qu'elle en a fait de la télé, elle s'était aperçue du pouvoir de la télé pour forger l'opinion publique. Puis c'est pour ça qu'elle voulait absolument garder des traces de ce qu'elle a. Pour répondre à ta question, elle est décédée, Mme Stokes, le 14 décembre 2012. C'est le jour même de la tragédie de Sandy Hook, la fusillade des enfants au primaire. Puis ça, parce qu'elle a eu un fils de son premier mariage, son fils est heureux que ça. Elle a pas eu le temps d'enregistrer cette nouvelle-là comme étant sa dernière. Elle est décédée dans la même journée, fait qu'elle l'a pas vue. Puis un an après son décès à Mme Marion Stokes, le site dont je vous ai déjà parlé, Internet Archive, a commencé de très longs processus pour numériser son œuvre de 33 ans de télé en direct.
Et il doit y avoir beaucoup de choses.
Il n'y a rien d'autre sur la planète. d'enregistrement, si tu veux, de journal de ce qui s'est passé pendant ces 33 années-là.
C'est ça. Donc, c'est des choses inédites ou pas inédites, mais c'est des choses qu'on n'a pas nulle part ailleurs. Il n'y a pas un réseau de télé qui avait gardé ces enregistrements-là. Non. Et donc, elle avait accumulé tout ça. Est-ce que ça avait une grande valeur quand ça a été...
En argent, non, mais j'ai juste le nom en tête, en record, c'est ça, en enregistrement historique, ça a une valeur inestimable. C'est pour ça que le Internet Archive a décidé de le numériser tranquillement, pas vite. On voit même dans les... Tu sais, il y a un documentaire, je sais pas si ça vous intéresse, ça s'appelle Recorder, un documentaire qui a été fait en 2019 sur elle, qui est disponible à peu près sur toutes les plateformes. Là. On voit plein d'images, évidemment, des événements de toute cette époque-là, là, que ce soit Challenger, que ce soit la tentative d'assassinat contre Reagan, plein de trucs. On voit même, je sais pas si vous vous souvenez de la porte-parole de Trump, Kellyanne Conway, on la voit même avant qu'elle change de nom, avant qu'elle se marie, parce qu'elle était déjà commentatrice à Fox. Je pense que c'est Kellyanne Fitzpatrick. En tout cas, c'est vraiment... une œuvre, une femme bizarre, pas folle, mais un peu folle, puis qui nous offre, c'est ça, un portrait de la télé américaine de 1979 jusqu'à 2012.
Mais à venir, c'est quoi? Il va y avoir une exposition on va sortir les meilleurs moments de ça?
Je sais pas. Écoute, comme je te dis.
Là, on est en train de finaliser l'archivage.
Oui, on va pouvoir rechercher puis juste les bouts qu'on veut puis.
Ça va être malade.
Oui, ça va être fou.
Merci beaucoup, Nicolas. Oui. Donc, voilà le début de l'archivage de la télévision. On s'arrête quelques instants. Bougez pas.
Dupont. C'est une légende. Dupont. C'est un raconteur. Dupont le matin, avec Stéphane Dupont. Hey Dupont, bon matin Dupont. Dupont le matin, avec Stéphane Dupont.
On est de retour dans Dupont le matin. J'étais en train de lire tout ce qui était compris dans le grand prix qu'on va attribuer vendredi. Donc, ce forfait d'une valeur de 2 300 $ à l'hôtel Monsieur Jean, sur la rue Saint-Jean, ici à Québec. C'est donc 2 nuits dans la merveilleuse suite de l'hôtel. Une suite qui comprend un lit King, un lit Murphy Queen, je sais pas c'est quoi un lit Murphy Queen, 2 salles de bain, dont une avec un bain autoportant. Et lorsque t'es dans le bain, ben t'as une vue extraordinaire sur la ville de Québec. Une immense terrasse avec foyer au gaz. T'as les déjeuners pour les 2 jours pour 2 personnes. Le stationnement. Le souper en formule découverte au restaurant Le Bijou, qui inclut 2 consommations par personne. Et 3 plats à partager au choix. Donc, tout ça, restaurant Le Bijou à l'intérieur de l'hôtel de Monsieur Jean. Donc, pour gagner ce forfait-là ou tout simplement une carte cadeau de 50 $, vous devez texter le mot particulier aujourd'hui.
Comme dans l'expression le trafic est particulier aujourd'hui.
Oui, comme dans toutes les expressions où on utilise le mot particulier. Donc inscrivez-vous 25226 pour pouvoir peut-être être le finaliste et le grand gagnant de ce séjour dans notre si belle ville.
Je te dis pas ça banalement là, parce que oui, ce qui arrive sur Henri IV, mais c'est parce qu'il y a un autre accident qui vient de survenir.
OK.
Le tour de la capitale en direction ouest, tu sais la partie où on commence les travaux avec les voies déviées puis c'est pas très très peu large là, ben il y a un F-150 en panne dans la voie de gauche.
Mm-hmm.
Fait que comme on dit, ça paraît déjà.
Voilà pourquoi ça vous prend un RAM. C'est le gars qui sont forts des tempêtes, lui. On va parler maintenant justement de climat de travail, parce que il y a des endroits des fois où le climat et là c'est pas la température, toi c'est ça que tu pensais
non,
climat
non,
de travail.
Non, pas du tout. Il est froid.
On a des rencontres en personne. Prévu après, là.
Après, pour le climat ici, hein. vous savez que des fois, ça peut vraiment être très désagréable, puis de rentrer au travail à reculons. Des fois, on va assister à des départs, également des départs, j'allais dire groupés, de membres du personnel qui en ont assez, qui veulent passer un message. Donc, il y a différentes façons de voir ça. Pour en parler avec nous, elle est la présidente et stratège chez RH, stratège RH, pardon, chez Droit et Ressources Humaines. Marie-Ève Drouin est en studio. nous autres. Bonjour, Marie-Ève.
Bonjour.
C'est-tu si pire que ça, les climats de travail? Il y en a de... J'imagine qu'il y en a de tous les niveaux. Là. Il y a des endroits où ça va très, très bien. Et là, ils n'ont pas besoin de tes services. Mais il y a beaucoup d'endroits où ça peut commencer à accrocher. Il y en a d'autres que ça a dégénéré.
Malheureusement, le climat de travail souvent s'installe de façon sournoise. On commence tranquillement à sentir une situation plus tendue. Des employés qui vont se lever le matin et vont faire « Ah, oh, ça me tente pas d'aller travailler ce matin. » Ça n'a rien à voir avec le travail en tant que tel, mais c'est un climat de travail lourd. Et en plus de 10 ans là, que j'accompagne les entreprises, j'ai jamais vu un climat de travail aussi lourd que ça. Pourquoi? Parce que autant les employeurs que les employés ont comme perdu confiance dans les relations humaines. Ils ont été blessés. Il y a eu, bon, évidemment, la pandémie qui a pas aidé. Augmentation des problèmes de santé mentale au travail, le stress associé à l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt. Les gens arrivent stressés quand on est stressé. On est un petit peu moins à l'écoute ou
réceptif
à ce que les gens vont nous dire. Des fois, on est un petit peu plus prime à répondre ou ça, du moins, c'est quoi ton problème. Donc, on a développé une relation de on se protège, on a peur, on veut pas laisser les gens rentrer. Parce que on a été blessé dans le passé, parce qu'on était la seule personne à aider dans l'entreprise. Puis tranquillement, pas vite, ça fait monter des tensions, des irritants. Puis quand on pose la question, là, on a des départs, des gens qui sont blessés. Puis quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils me disent tout, mais Marie, je veux juste être bien quand je viens travailler. Donc, les gens veulent la même chose, mais ils ont peur de se parler.
Est-ce qu'il y a une sensibilité accrue aussi des gens sur les climats de travail, des choses qu'on aurait... pas soulevé il y a 15-20 ans, puis que maintenant, passe plus.
Absolument. Par contre, il faut comprendre là, que souvent, on entend que ce qui se passe à la maison reste à la maison, ce qui se passe au travail reste au travail. Dans les faits, on est des humains. Hein? C'est bien, bien, bien difficile. Si vous connaissez la recette miracle pour faire la séparation, donnez-moi là, je suis persuadée que j'ai beaucoup de clients qui vont vouloir l'avoir. La réalité, c'est qu'on arrive avec notre bagage et aujourd'hui, les gens sont stressés peut-être de plus en plus. Hein? La pression, on en parlait tantôt. On a 24 heures dans une journée. Des fois, ça nous en prendrait 48 hein, pour aller, pour réussir à faire toutes les activités parascolaires des enfants, aller les chercher, les repas. Il y a une pression aussi sociale d'être des bons parents, de prendre soin de nous, mais d'être des bons employés. Donc, oui, probablement qu'il y a des choses qui auraient passé dans le temps parce qu'il n'y avait peut-être pas la même pression globale ou la charge mentale sur le dos des gens.
Mais la tolérance des employés, moi, c'est la carapace dont Nico fait allusion, elle est beaucoup moins épaisse aujourd'hui qu'elle ne l'était. Il y en a où si le ton lève un petit peu, si une façon de faire change, aussi basic qu'une petite façon de faire le matin change ou il change la machine à café, puis ça peut créer une turbulence dans un milieu de travail.
Mais c'est vrai aussi dans la vie de couple. Donc, les gens ont changé. Avant, les gens restaient en couple longtemps et c'était pas parce qu'ils chicanaient qu'ils demandaient le divorce nécessairement. Aujourd'hui, les couples changent au gré du vent. Ah là, moi, je suis tannée, ça, c'est intolérable. On se sépare, on revient. Donc, les gens doivent réapprendre à... C'est quoi une relation de confiance? Puis une relation de confiance, c'est ce que moi, je peux donner aussi. C'est ce que je reçois, mais c'est ce que je peux donner. Puis s'il n'y a pas un équilibre entre les deux, que c'est toujours la même personne qui fait les devants, bien, c'est sûr qu'à la moindre petite chose, ça va exploser. Donc, les employés, ah, oh, il m'a parlé croche. OK, mais moi, comment je suis arrivée au travail? C'était quoi mon état d'esprit à moi? Donc, des fois, il faut réapprendre aux employés et même aux employeurs à se poser les questions. OK, mais moi, je veux quoi, là? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux donner? Parce que moi, j'ai des clients, des fois, qui me disent, « Mais Marie, écoute, ils ont tellement un bon salaire, des bons avantages, là, moi, garde, qu'ils fassent leur job. » Puis je trouve ça tout le temps très drôle parce que en fait, oui, ils ont raison, ils vont attirer des employés. Mais la réalité, là, c'est Stéphane, si je te dis, « Hey, y a un gars, là, il a rencontré la plus belle femme qu'il a pas pu voir. Ben, elle dit, ben moi, là, je suis belle. Fait que viens, tu vas être mon chum.
Mais
je te parlerai pas le matin. Je te parlerai pas, je vais t'ignorer. Puis je vais me dire, gars, compte-toi chanceux de pouvoir vivre avec une belle femme comme moi. Ben, ça va peut-être faire au début, puis à un moment donné, il va faire comme...
Nico, il est tolérant. Nico, il t'a toute une carapace.
Je vais peut-être finalement trouver autre chose. Je vais déchanter.
Mais justement, comme, soit responsable d'un département d'employés, d'être le propriétaire de l'entreprise, whatever, le rôle, mais t'es le boss versus les employés. employés. Ouais. Là, ça fait un bout de temps, on a commencé à mettre des gants blancs. On est rendu que là, les gants blancs, faut en mettre deux épaisseurs quasiment. C'est-tu normal? Puis est-ce que c'est la façon de faire? Donc, c'est l'employeur ou le gestionnaire du service ou des employés qui doit, lui, se plier à quasiment toutes les demandes et les façons d'être de chacun des employés.
Je trouve ça super intéressant ce que tu m'apportes parce que souvent, les gens, ils ont pas mis des gants blancs, ils ont juste pas parlé. Les employeurs ont toléré. Et de ne pas parler, de ne pas exprimer, ça, je suis inconfortable avec ça. Ici, c'est pas les valeurs que je veux véhiculer. C'est ce que je m'attends de toi, c'est X, c'est Y. Donc, on a oublié de remettre c'était quoi nos attentes, c'était quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on s'attend. Et là, à un moment donné, on décide que c'est assez, hein? Puis là, l'employé fait comme, ben voyons, il est débile, mon patron. Pourquoi il me parle de même à matin alors qu'on a toléré? Donc, la base, c'est de revenir à la base. C'est quoi mes valeurs d'entreprise? Quel genre de culture je veux? Aujourd'hui, on fait beaucoup de guides de culture RH pour dire, mais c'est quoi nos valeurs ici? C'est quoi les comportements attendus? Et pour pouvoir dire, écoute, ça passe pas chez nous. Et on a le droit de dire, vous seriez surpris de voir à quel point je peux faire des plans d'amélioration de la performance auprès d'employés en disant, ton rendement est insuffisant. Ça fonctionne pas. Puis si tu t'améliores pas, on n'aura pas d'autre choix que de te congédier. En pleine pénurie de main-d'œuvre, tout le monde m'a dit, ben voyons, il va sacrer son camp.
Je peux pas dire ça, ben non.
Hey. Ben, vous seriez surpris de voir à quel point non seulement ces employés-là restent, mais par la suite deviennent des super bons performants parce que l'humain, à la base, là, il veut plaire. Il veut être reconnu pour ce qu'il est. Il veut être vu, être entendu. Puis le fait de laisser faire, c'est comme si on l'ignorait. Une sensation de rejet, là, c'est atroce. Si vous voulez faire mal à quelqu'un, testez-le, ceux qui ont des jeunes enfants. Ignorez vos enfants pendant 10 minutes. Écoutez, ils vont faire tout ce que vous voulez. Ils vont s'excuser. C'est beaucoup plus... ça a un impact beaucoup plus fort chez l'humain.
L'indifférence, c'est la chose la plus méchante, là. Je le dis, ça fait des années que c'est comme ça. Mais là, t'es allé un peu plus loin parce que tu me dis, donc, mettons des gants blancs, mais en même temps... On va dire ces quatre vérités.
Exact. T'sais. Donc, on va le formuler de la bonne façon. Donc, faut apprendre. Autant, là, on parle de gestionnaire avec les employés, mais moi, je vois un paquet de gestionnaires qui sont découragés de voir à quel point, entre employés, des fois, il y a une guerre interne. Donc, apprenons aux gens à communiquer leur malaise. Je suis pas à l'aise. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, t'as fait une blague tantôt. Est-ce que tu me visais personnellement parce que là, je me sens pas bien? Tout de suite, on va être capable de rectifier au lieu de dire, je vais aller faire le tour. Hey Karine, t'as-tu entendu ce que Stéphane a dit? Comment tu trouves ça comment, toi? Ah, puis là, ça va partir.
Là, ça va être de l'interprétation.
Là, ça va être de l'interprétation, de perception. Puis tranquillement, pas vite, ça va se conforter. Puis à chaque fois qu'il va parler, moi, je vais prouver mon point. Je vais retenir seulement ce que je veux pour prouver mon point au lieu de juste apprendre à dire j'ai un malaise. Dans la vraie vie, c'est vrai dans notre relation de couple. S'il y a quelque chose qui nous dérange, faut apprendre à le verbaliser. Et si on a peur à chaque fois de déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est que notre relation n'est pas assez forte. Donc, faut la travailler. Puis quand on a une relation...
Qu'est-ce que la relation n'est pas assez forte?
Mais si à chaque fois qu'on chicane puis que j'exprime mon malaise, j'ai peur que mon chum me laisse, c'est sûr et certain que c'est que ma relation n'est pas assez forte. Parce qu'une relation...
Mais avec un employé, il n'y a pas de relation, je veux dire.
Il devrait avoir une relation humaine dernière. Et c'est ce qui va faire que les gens vont rester. Les salaires, on peut toujours trouver une entreprise qui va payer plus cher. Okay. On peut toujours trouver un emploi qui va sembler plus intéressant. Les gens vont demeurer parce qu'ils se sentent bien. L'émotion, c'est ce qu'on se souvient.
Sentiment d'appartenance.
Mais c'est à quelle place on peut, Ray, je le dis souvent, là, il se perd des bons coups de pied dans le cul, des fois, là, tu sais, pour que du monde avance dans la bonne direction. Ça, on n'est plus là pantoute, là.
En fait, encore là, moi, je trouve que, bon, le coup de pied était peut-être un peu agressif comme image, mais je pense que des relations authentiques, une communication ouverte de dire ça, c'est pas suffisant. C'est pas assez. Moi, je m'attends à ce que tu prennes les devants avec le client, que tu te lèves, que tu y ailles le voir. Ça se dit très bien. C'est pas rough. Puis au contraire, les gens vont vouloir avoir une reconnaissance. Une reconnaissance de dire, ben bravo. Ça a dû être difficile d'aller face au client parce que ça a pu être gênant. Mais je suis vraiment content que tu l'aies fait. Qu'est-ce que ça va créer dans le cerveau de la personne? Ça va créer un indicateur qui dit, hey, moi, je la veux, cette reconnaissance-là. Fait que je vais le refaire. Donc, c'est plus, je te ramasse. C'est voici ce que je m'attends. Donc, apprendre à communiquer ce qu'on veut, vous allez changer complètement la donne.
OK. Est-ce que c'est une discussion ou un monologue? Est-ce qu'on laisse, par exemple, l'employé réagir à chaque... Oh, ouais, mais là, c'est à cause de lui, là. Ouais. Il y en a qui vont prendre... Tu sais, des fois, tu vas peut-être préparer quelque chose en exigeant, ou en tout cas, en voulant passer un message. Mais là, s'il rétorque à chaque argument, tu t'enfarges dans ton message. Alors, comment on fait ça?
En fait, faut recadrer. Donc, par exemple, si on prend un employé où on dit, ben nous ici, les clients, on va aller les voir avant même qu'ils arrivent au comptoir. Là, on prend un exemple comme ça. Oui. Et là, on rencontre, on va l'appeler Paul. Paul, moi, je m'attends à ce que tu te lèves et que tu ailles à la rencontre des clients dès qu'ils mettent le pied dans le magasin. Paul dit, ben oui, mais Josée, elle est toujours à côté, c'est le coin du comptoir avec son cellulaire. Là, Paul, j'ai la difficulté à comprendre pourquoi tu me parles de Josée, parce que là, on a une communication, toi puis moi. Donc, je reviens. Ce que je m'attends de toi, Paul, puis je vais parler avec Josée pour le reste, c'est que quand il y a un client qui rentre dans le magasin, tu te lèves et tu y alles à sa rencontre. Parce que ici, c'est ce qu'on a choisi, c'est de donner un service à la clientèle extraordinaire. Donc, est-ce que je peux avoir ton engagement? Moi, j'ai besoin de chacun de mes employés. La phrase « j'ai besoin de toi », c'est une phrase puissante, abusée, hein? Donc, « j'ai besoin de toi, Paul, est-ce que je peux compter sur toi? »
C'est qui parle à Paul, là?
C'est le gestionnaire.
C'est le gestionnaire. OK, mettons, c'est Gérard.
Ouais.
Gérard qui est le gestionnaire.
Exact.
Est-ce que lui, est-ce que Gérard...
Oui.
Moi, ce serait plutôt ma tendance. Devrait pas déléguer ça à quelqu'un. Tu sais, quand t'es le gestionnaire
essaye pas,
ou le patron, pourquoi? Non,
on
te connaît, toi le boss. Je le sais, mais...
Assume.
En même temps, oui, assume, mais... Si t'as pas envie de créer de froid
oui.
ou de quelconque crise que ce soit,
oui.
des fois t'es peut-être mieux de faire passer ton message
mais,
par quelqu'un.
Mais ouais, moi, mais j'ai tu de la misère pas à ça. Comprendre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton service. Je sais que t'es capable. J'ai de la misère à comprendre à quel point ça va venir froisser Paul puis que ça va créer une distance.
OK.
Parce qu'en fait, ce qu'il veut,
ouais, mais il
c'est
va
que
peut-être
te plaire.
Oui, mais en même temps, ce qu'il va le froisser, il va dire, je veux que tu ailles répondre aux clients quand ils rentrent. Mais là, il veut pas, lui, il va envoyer Josée ou Martine à la plage, en tout cas, peu importe.
Mais
qui.
Non, mais ce qu'il veut, c'est qu'il soit pas tout seul à le faire puis que les autres se pognent le cul.
C'est un sentiment de justice. Ouais. Le sentiment d'iniquité en entreprise est très fort et malheureusement, les gens l'ont ressenti parce que les gestionnaires ont peur de parler. Donc, à partir du moment où ils traversent ça, non seulement ils vont créer une relation de confiance avec la personne parce que c'est sécurisant. Je vais connaître ta limite, Stéphane. Je vais savoir quand c'est bien, et là, ne pas juste, s'il vous plaît, faire de la reconnaissance, de t'es pas allé à la rencontre. Donc, j'ai besoin que tu y ailles. Si dans le prochain 20 minutes, on se rend compte que Paul, à chaque fois, il va, c'est important de retourner valoriser l'effort, pas le résultat. Pas t'es bon au service à la clientèle, Paul. Ça veut rien dire, ça. C'est comme hors de son contrôle. Faut lui redonner le contrôle. Je suis content, Paul. Je suis vraiment content. On a eu une belle discussion ce matin, puis j'ai remarqué que t'avais fait un effort pour te lever à chaque fois.
Est-ce que quand le climat dégénère
ouais.
dans un milieu de travail, souvent, il va y avoir plus d'un individu qui va avoir contribué à ce chaos-là. Là. Puis même que des fois, ils vont se craquer les uns les autres. Est-ce que une réunion de groupe, parce que là, tu as parlé beaucoup de relations et, ouais. de, et d'interventions one-on-one, personne à personne,
ouais.
mais un meeting de groupe, une brassée de linge sale, comme des fois on dit au hockey, ils font ça au hockey, des fois dans le vestiaire entre eux autres. Est-ce que ça peut être payant pour une entreprise?
Absolument. En fait, souvent, il va pas dans une brassée de linge sale en partant parce qu'on va perdre le contrôle. Fait qu'on va faire une réunion d'équipe où on va plus aller chercher sur chaque personne quelles sont leurs valeurs les plus importantes. C'est quoi pour eux quelque chose pour qu'ils soient bien dans le milieu de travail? Et là, c'est super drôle parce qu'après, on leur demande, mais quels seraient les comportements inacceptables qui vont aller à l'encontre? Et c'est super drôle parce que souvent, la commère de la place, elle va me dire le respect. Et là, quand on continue à creuser, on se dit, mais parfait, ça serait quoi le genre de comportement inacceptable par rapport au respect? Et là, on se rend compte que la personne a fait du mémérage parce que elle a peur de déplaire, fait qu'elle va aller valider à gauche, à droite parce qu'elle n'est pas bien outillée. Fait que de faire une rencontre puis dire là, gang, on a le droit de faire des erreurs et on va en refaire. Hein. L'humain n'est pas parfait encore. Moi, je suis médiatrice, je me chicane encore avec mon chum. Fait que c'est sûr qu'il n'y a personne de parfait. Donc, d'apprendre à tout le monde puis après de dire là, en gang, qu'est-ce qu'on peut se faire comme promesse de dire qu'est-ce que nous, on peut donner en tant qu'individu, de les faire réfléchir à ça. Et oui, qu'ils répondent, moi, je peux donner ça. Moi, ma force, c'est ça. Donc, que tout le monde trouve sa place. Puis après ça, on dit, ben parfait. Alors, voici ce que nous, on s'attend en équipe de chacun des autres. Ça l'aide à rebâtir une relation. Des fois, on n'a pas le choix après ça de rencontrer en individuel deux personnes parce que là, eux, ça fait tellement longtemps que ça dure que s'ils n'ont pas un petit coup de main, même la rencontre d'équipe fera pas, là. Tu sais, si on le sait comment c'est dur de s'excuser, des fois, on chicane, puis on sait que c'est nous autres qui a tort, là. On a commencé, on a dit un commentaire qu'on n'aurait pas dû. Mais ça nous prend tout notre petit change pour aller dire « je m'excuse ». C'est sûr que quand c'est dans un milieu de travail avec quelqu'un avec qui on partage pas notre vie, c'est encore plus dur. Fait que des fois, ça prend un petit coup de main pour dire là, voici ce qu'on reprend.
Je trouve qu'en 2024, même si on s'excuse ou bien on dit on va avoir une discussion franche et honnête,